Les gars, ça va ?
Très bien.
Donc bah, je suis super content de vous voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, le sound design, ça me parle vraiment parce que j'ai commencé dans la musique. Donc là, on est dans la musique mais dans le jeu vidéo, donc j'espère qu'on va apprendre plein de choses. Donc là, on est au 4, c'est ça Sylvain ? Le numéro 4, et c'est le sound design. Alors les gars, bah, on va commencer tout simplement par une petite présentation. Je vous donne 2 minutes. Racontez pas votre vie non plus. Prenez juste les trucs les plus importants pour qu'on sache un peu, parce que comme on est des passionnés, on pourrait parler de nous des heures. Donc voilà. Aurélien, commence par toi. 2 minutes. Qui tu es ?
Alors moi, je m'appelle Aurélien. Je suis compositeur et sound designer dans le jeu vidéo depuis quelques années. Je bosse notamment dans le milieu indépendant, dans le milieu des moyens projets. Et je fais également des vidéos sur YouTube où justement je parle de ça, de la musique, du sound design dans le jeu vidéo et tout ça, tout ça.
T'as une chaîne YouTube ?
Oui.
Ah cool.
Où je vulgarise le sujet justement, je montre le processus créatif du sound design, le processus créatif de la musique. Je parle de différents sujets comme la narration à travers la musique, comment on fait du sound design pour de la VR, etc. etc.
Wow. Ok, cool. Je savais pas, on va aller voir ta chaîne. Merci Aurélien. Mathieu, un petit mot sur toi ?
Ouais, bah moi c'est Mathieu, du coup je travaille dans le jeu vidéo principalement en tant que sound designer, je fais très peu de musique, c'est pas mon métier à l'origine, même si j'aime ça. Et voilà, je bosse depuis maintenant 4 ans, je suis sorti de Lengmin, et je suis passé par Ubisoft, Dontnod, et j'ai eu une petite expérience dans l'indé avec Event Zero, voilà.
Ok super, bon, on va rester sur sujet. Donc toi t'as une formation, t'as été à l'école ? T'as appris le sound design dans une école ?
Ouais, il y a une section sound design à Lengmin. Ouais.
Avant cette école, tu touchais un peu ou pas ?
Avant cette école, oui, j'avais déjà fait de l'audio. En fait, j'ai un parcours qui est un petit peu long. À l'origine, je viens d'une école d'ingé en informatique.
Ouais.
Quand j'ai terminé cette école-là, j'ai fait directement une formation en son en fait, d'un an dans une école qui s'appelle la SAE, qui est une école privée. Voilà. Et puis j'ai bossé un petit peu dans le son, à droite à gauche, plutôt post-prod, un petit peu musique aussi. Mais c'était très difficile
T'étais plus dans la musique, quoi.
Musique un peu post-prod pour la télé aussi.
D'accord.
J'ai bossé un peu dans le doublage aussi, dans un gros studio de doublage.
Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé dans le jeu vidéo ?
Et ben en fait, donc voilà, je termine sur la longue histoire,
ouais.
Je fais ça vite. Donc en ayant du mal à bosser dans le son, en sortant directement de l'école comme ça, j'ai fini par revenir vers le développement en fait. J'ai été développeur web pendant 4 ans, et puis j'étais pas spécialement content de ce que je faisais, quoi. Enfin c'était pas mon trip particulièrement, donc j'ai entendu parler de Lengmin à ce moment-là, et de la formation qu'ils avaient en sound design, et je me suis dit que c'était parfait pour allier les deux en fait. J'étais déjà dans l'informatique, j'étais déjà dans le son. C'était le bon moyen d'allier les deux, quoi.
Ouais,
donc je suis rentré dans le sound design pour le jeu, par le côté technique, en fait.
D'accord. Voilà. Tu restes un gamer ou pas ?
Ouais, bien sûr. Oui, c'était pas un hasard si je voulais faire ça dans le jeu. C'est aussi parce que c'est un média qui me fait kiffer, ouais.
D'accord. Lengmin, 2, 3 ans ?
2 ans.
2 ans ?
Mm-hmm.
T'es ressorti diplômé ?
Ouais.
T'as trouvé du boulot ?
J'ai trouvé du boulot direct, ouais.
Yeah, super.
Ouais, c'était cool.
On en parlera de ça. Ok, Aurélien, ton petit parcours, c'est quoi ? T'as été dans une école, toi ?
Oui, j'ai fait, après mon bac, je suis parti à Isart Digital en filière musique et sound design, et qui est une formation de 2 ans.
Alors
et...
pareil, tu faisais quoi avant ? Pourquoi tu t'es retrouvé chez
Avant, j'étais encore au lycée, et
ouais.
En gros, je faisais de la musique, j'ai fait de la guitare, etc. Et je faisais, en gros, avec des potes, on avait tout le temps des projets de jeux où à chaque fois, c'est moi qui devais m'occuper de la musique et du bruitage, des projets audiovisuels. Et en fait, un jour, un pote m'a contacté, parce que j'ai redoublé faire des histoires comme ça, et du coup, il était déjà en études post-bac. Et en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé un message en me disant « Hey, tu te rappelles de quand on faisait des jeux ensemble et tout ? Bah, il y a cette formation à Isart Digital où tu peux faire où t'es formé pour faire de la musique et du bruitage. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et du coup, je fais « Bah ouais, on voit le lien. » Et comme j'ai découvert la formation, j'ai fait « Mais il faut que je fasse ça, en fait, parce que je pensais pas qu'on pouvait en faire un métier, en fait. Je pensais que c'était genre... c'était un peu un truc de plus élitiste que ça, en fait.
Ouais.
Et du coup, quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Bon, bah, je vais me mettre à la production de musique, je vais me mettre à la production de sound design, et voilà, quoi. »
Tu vas passer un diplôme.
C'est ça.
2 ans, 3 ?
2 ans. Maintenant, c'est passé à 3.
Ah ouais ?
Ouais. Parce que maintenant, il y a une prépa pour si, en gros, tu n'as jamais fait de MAO, tu n'as jamais fait de sound design, mmh. et bah, y a une petite année de préparation en temps plein où tu apprends toutes les bases.
D'accord. T'as eu ton diplôme ?
Oui.
T'as trouvé du boulot ?
Oui.
Cool. Bon bah super. Alors justement, on va en parler. L'actualité, c'est quoi aujourd'hui Mathieu, qu'est-ce que tu fais là en ce moment ?
Là en ce moment, je me repose beaucoup parce que je viens de terminer, je viens de terminer mon dernier contrat et je vais probablement devoir me remettre à chercher du boulot.
C'était quoi ton dernier contrat ?
J'étais chez Dontnod là, je bossais sur Vampire.
Ah. Vampire, c'était bien ?
Ouais, c'était cool, ouais. C'était très intéressant. Ouais. Ouais.
T'as fait quoi là-dessus ?
J'ai fait un petit peu de tout en fait. C'est pour ça que c'était intéressant justement. J'étais à Ubisoft juste avant, mm-hmm. et à Ubisoft on est beaucoup plus nombreux en fait, surtout sur les gros projets, ouais. donc on voit des plus petites parties du jeu, tout simplement c'est travailler divisé en plein de gens, et, plus spécialisé.
Les sound designers ils voient pas tout le jeu ?
Non, comment ça ?
Bah comme tu... je sais pas, quand sur un gros jeu le son c'est du début à la fin, c'est pas des parties. Est-ce que les mecs qui s'occupent du son, ils voient le jeu en entier ou ça reste des petites parties ?
Alors ça dépend. Si tu veux, je peux parler un peu plus du projet en particulier. C'était Watch Dogs.
Ouais.
C'est Watch Dogs 2 en l'occurrence.
Le 2, ouais.
Là où c'est particulier, c'est que c'est un projet qui est développé à Montréal à l'origine. Mmh. Et puis Paris développe quelques features et quelques missions.
D'accord.
Donc nous on s'occupe en son, dans l'équipe parisienne, on s'occupait du son pour les features et les missions développées à Paris.
Avec une équipe à Paris ?
Il y avait qu'une équipe audio à Paris, ouais. Enfin, il y avait que pour Watch Dogs, quoi, ouais. Ouais.
D'accord.
Et donc par exemple, toutes les ce qu'ils appellent les core features, quoi, le cœur du jeu, c'était développé à Montréal, et tout ce qui va être par exemple son de bagnole, de flingue, etc., c'était plutôt développé là-bas. Donc moi j'y ai pas touché, par exemple.
D'accord.
Voilà. Moi personnellement, c'est pas ce qui me fait le plus marrer de toute façon, donc ça me dérangeait pas, mais oui, voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'on touche pas à tout, quoi. Ouais. Alors que là, sur Vampire, on était tous les trois sur place dans le studio qui développe le jeu, et du coup, on touchait à tout. C'était...
Et là, t'as touché à tout.
Ouais.
C'est la différence entre les gros jeux et les moyens jeux, on va en parler. Ouais. Justement, Aurélien, toi, tu parles de moyens jeux.
Oui.
C'est quoi un moyen jeu ?
Bah en fait c'est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est pas indé parce qu'on n'est pas non plus avec trois bouts de ficelle, on est quand même dans une structure, mais on n'est pas non plus dans du AAA comme on aurait chez Ubisoft ou Dontnod, donc on est un peu dans un entre-deux. Je pense notamment il y a pas longtemps où j'ai bossé sur une sorte de jeu indé, mais avec quand même une vraie équipe dans un vrai studio qui était Bowling Bolt, qui était un jeu développé par Persistent Studio. Mmh. Et en gros, bon, je me suis occupé que de la musique sur ce projet-là, mais il y avait quand même des moyens investis, il y avait quand même une vraie équipe, on était quand même assez nombreux sur le projet. Et voilà, c'était quand même... je considère que c'était pas non plus la première année où on est trois, etc. quoi.
Ok, cool. Alors, bah c'est bien, on va pouvoir faire des distinctions là-dessus.
Ouais.
Un petit mot sur les outils. On est des sound designers. Mmh. Quel outil vous utilisez ? C'est quoi ? Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y en a un qui... C'est celui-là et pas l'autre ? C'est déjà perso, là. Toi, tu travailles sur quoi ?
Alors, comme séquenceur Reaper, en général, je sais pas si ça te parle.
Le fameux. J'imagine que oui.
Après, comme moteur audio, principalement du Wise, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et puis, après, tout un tas de trucs comme... du SoundForge pour de l'édition de fichiers audio. Oui. Puis après, si on parle d'outils plus matériels, évidemment, des micros, des... j'ai fait assez peu d'enregistrements dans le cadre du boulot. J'ai principalement travaillé à partir de banques de son. Banque.
Wise revient souvent.
Wise revient, bah oui, Wise. C'est je pense que c'est le leader maintenant, ouais, mais c'est aussi sans problème le plus cher, donc c'est pas forcément
c'est
adopté partout
ouais.
parce que c'est cher. Quoi.
Ça coûte combien
Je sais plus, mais...
C'est des licences
il y a plusieurs paliers selon le budget du jeu.
Et t'as plusieurs façons de payer aussi. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, tu peux en gros... En fait, tant que tu n'atteins pas un budget d'investissement dans le projet, tu ne payes pas. Mais en fait, le palier est quand même assez bas. Je crois que c'est de l'ordre de... Je crois que c'est 30 000, si je veux pas dire de bêtises, mais c'est un truc dans ce genre-là. Et pour un projet de jeu, c'est pas très très haut.
Et là, ça tombe direct à genre 7 000 ou 9 000 euros, je crois, la licence, du coup. Ouais.
Et après, sinon, t'as d'autres...
Pour une plateforme.
Ouais.
Si tu veux builder ton jeu pour
PS4, Xbox,
voilà, tu rajoutes.
Donc si on fait de l'argent,
c'est ça.
D'accord. Alors toi aussi, les outils, c'est quoi ?
Alors moi, c'est vraiment beaucoup ce que je fais. Quand je fais de la musique ou même un peu de sound design, je bosse sur Ableton Live.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Je bosse. J'ai aussi un peu bossé sur Reaper, SoundForge quand il faut faire l'édit de voix, parce que c'est quand même vachement pratique. Et sinon, dans le jeu, j'ai bossé sur Wise, Fmod. Et puis après, j'ai aussi bossé dans l'engine pur avec Unity et Unreal.
Ouais, il y a des sur Unreal, tu peux faire du son. Ouais.
Tu peux. Faut juste bien maîtriser les outils et les blueprints, mais ça se fait.
Ça se fait. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous maîtrisez quand. Bah, Mathieu, quand tu vas dans un gros studio, ils ont des demandes, t'es obligé de travailler sur certains logiciels comme Wise ou.
Alors le moteur audio, oui, il fait partie du jeu au final. Ouais. Hein, c'est à la fois, en fait, c'est un peu un abus de langage parce que c'est à la fois l'éditeur qui nous permet de créer les comportements audio, de tout mettre en place, et c'est aussi la partie logicielle en fait, souvent sous forme de plugin, mais bon, peu importe, qui est intégré au moteur de jeu et qui va recevoir les requêtes du moteur de jeu pour déclencher les sons au bon moment, dans les bonnes conditions, sur la bonne forme, etc. Et qui va s'occuper du positionnement pour le cas d'un moteur 3D aussi.
Ouais.
Du positionnement des sons dans l'espace.
Alors, quand...
Et donc là, pour le coup, oui, ça fait partie du jeu, t'as pas le choix si tu utilises ça. C'est quoi ? Oui. C'est un choix qui est fait au début de la oui. production, et puis une fois qu'il est fait, tu
fais
avec. Hein,
Et quand les studios vous appellent, de quelle manière on vous appelle ? Est-ce qu'on vous appelle vraiment pour... on voit en vous un technicien, il y a un logiciel, faut y mettre du son. On vous voit comme un artiste, ou voilà, on a un jeu, et apporter votre oreille, votre composition pour donner tout un sens au jeu. Est-ce que... De quelle manière on vous appelle ? Technicien ou artiste ?
Moi, ça dépend beaucoup des projets en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que quand c'est des projets qui ont une volonté à être très artistique, à être très avec une direction artistique très assumée, souvent on parle plus d'artistique et du coup de façon de penser créative.
Mmh.
Surtout que moi notamment, je fais de la musique et du bruitage. Du coup, des fois, je lis les deux. C'est-à-dire que des fois, le bruitage devient musical et la musique devient et je mélange un peu les deux. Du coup, dans ce cas-là, ça peut être de l'artistique, mais aussi un peu l'aspect technique, parce que bah il y a l'intégration, il y a le mixage, il y a la mise en place un peu technique, ouais. notamment s'il y a de la musique interactive ou du sound design qui va évoluer en fonction des situations, en fonction du gameplay, enfin.
Donc c'est autant technique qu'artistique.
Ouais, pour moi c'est un peu un entre-deux. C'est vraiment il y a un aspect technique sur la mise en place et l'intégration et la façon de penser, et un aspect créatif sur qu'est-ce que je peux apporter comme élément artistique qui va sublimer en fait le gameplay ou la direction artistique du jeu.
Et quand on vous appelle, il y a déjà quelqu'un de supérieur qui vous dit exactement ce qu'ils veulent. Donc toi, tu as travaillé sur des grosses licences qui... Voilà, gars, c'est comme ça, nous, on va faire ça.
Ouais.
Ou bah, tu as quand même une certaine liberté, tu apportes ton truc.
Bah, t'as toujours, heureusement d'ailleurs, tu as toujours une certaine liberté. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu dis... est-ce qu'on vous appelle pour la technique ou pour l'artistique, encore une fois, ça dépend vachement des projets. Et comme tu dis, sur les gros, en général... À moins que tu sois le directeur artistique audio sur le projet, on t'appelle pour la technique, pour mettre en œuvre la direction artistique qui a été déjà mise en place, qui a été déjà définie par, par l'équipe du jeu.
Alors, très bien. On va parler un peu de l'évolution, justement, et puis après du futur. J'espère que vous allez avoir un futur de ouf, surtout cette année. Toi qui es là depuis un petit moment, Mathieu, est-ce que tu vois une évolution dans le sound design ? Depuis 5 ans, depuis avant que tu sois rentré à l'école, depuis que tu travailles dans ce milieu, est-ce que tu vois le sound design, c'est toujours pareil ? Est-ce que tu sens une évolution ? Est-ce que tu sens que ça prend plus d'importance ? Est-ce que ça, non, au contraire, ça s'est mis de côté ? Est-ce que technologiquement, il y a une avancée ? Dis-moi là, comment toi tu ressens là, ces 5 dernières années là ?
Alors sur les 5 dernières années, je sais pas s'il y a eu vraiment de la révolution au niveau du son dans le jeu, peut-être au niveau de la VR un peu quand même. Ouais.
Alors,
moi j'en ai pas fait, mais techniquement il y a des nouveautés, c'est sûr.
Tu fais pas le son de la même façon sur un jeu VR ?
Tu pourrais, mais en général on en profite pour essayer de faire quelque chose de très immersif. C'est au casque souvent, donc du coup il y a les technologies binaurales qui se mettent en place. Je sais pas si. Est-ce qu'on en parle un peu
Moi je peux en parler, parce que là je suis sur mon deuxième projet en ce moment VR. Donc,
je te laisse en parler, tu sors en parler de mes points.
En fait, sur la VR, en gros, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment presque une obligation d'immersion du joueur. C'est-à-dire que, en général, que ce soit sur PS3, PS4, le joueur, il a des enceintes, il est loin de sa source sonore. Donc, on a besoin que ce soit audible, peu importe la plateforme. Sur un jeu VR, généralement, soit le joueur, il a un casque, l'on n'a pas. Mais en général, il le met pour l'immersion. Et en fait, ça a amené beaucoup de choses, comme le binaural, beaucoup de recherches sur l'aspect son. Pour vraiment immerger le joueur, et au final on se rend compte que le binaural c'est sympa, mais en fait on s'en sert pas parce que ça demande beaucoup de travail pour un résultat qui peut être perceptible par, on va dire, 10-20% des joueurs, et par exemple, j'ai un exemple, il y a un studio qui s'appelle, je crois, Void, qui fait en gros ce qu'on appelle de l'hyper VR, où en fait en gros ils ont des casques dans des vrais lieux, Et en gros, ils font des interactions. Par exemple, imaginons, on est dans un temple aztèque. Il y a une porte en pierre, tu touches, il y a du support. La porte s'ouvre.
Ouais, okay.
Et la porte s'ouvre dans le jeu. Physique, et tu mets ta main et tu peux travailler. Il n'y a plus la porte.
Là, il y aurait. Tu mets le casque et tu vois la porte, mais tu touches quelque chose.
C'est ça.
Oh, c'est ouf.
Et ils ont fait ça et ils ont expliqué justement le sound designer qui a bossé dessus. Il a dit on a essayé de faire du binaural. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était très très embêtant pour pas grand chose. Et du coup, maintenant, on a tendance à. Nice. Par contre, dans les outils, effectivement, il y a des outils qui sont développés, notamment des spatialiseurs, notamment Oculus qui fait ça, qui développe des outils pour F-Mode, qui te permettent d'améliorer la façon de spatialiser. Dans ce cas-là, tu joues avec les outils de base que te fournissent F-Mode et les outils que te fournissent Oculus pour avoir un rendu le plus.
Naturel, ouais, peut-être qu'on pourrait parler de naturel,
ouais,
je pense.
C'est ça.
En fait, quand tu, dans un moteur audio, si tu spatialises une source, je dirais simplement, voilà, tu dis, voilà, elle se pose là, ça sonne pas naturel, parce que dans la réalité, quand t'as un son qui vient d'une certaine direction, il va être réfléchi sur toutes les parois autour de toi, tu vas l'entendre venir d'un petit peu partout, au final. Et si t'arrives pas à reproduire cette sensation-là, plus ou moins bien, ça va sonner faux, en fait, ça va sonner plastique.
Et le son peut aussi améliorer le gameplay, notamment par exemple parce que quand on est dans un jeu VR, on perd des sensations, notamment ce son de toucher, c'est-à-dire que quand tu touches un objet, par exemple, imaginons t'as un bouton, pour savoir à quel moment tu touches le bouton, c'est pas forcément intuitif que par exemple si tu mets du sound design, par exemple et que tu fais clic, le joueur sait qui touche et en fait instinctivement le cerveau fait ok c'est cohérent, j'entends du son,
il y a eu un feedback.
Du coup, t'as l'impression de vraiment toucher un objet en fait.
Et ça, c'est vrai pour davantage que la VR en fait. De toute façon, je pense que ce qu'on fait souvent en sound design, quand on rajoute du bruitage dans un jeu, c'est donner du poids aux objets, un côté physique, un côté peut-être un peu plus. Concret que s'il n'y avait pas de son en fait. Souvent, enfin. D'ailleurs, les gens sont surpris quand on rajoute du son sur une anime, ils font ah ouais, d'accord, ok, maintenant ça.
ouais. Mais oui, ouais,
ça change quelque chose. Alors nous on est là, j'ai juste fait mon métier, quoi, tu vois, mais.
Non, mais ça change.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, et quand tu le fais, que tu te rends compte que, on rajoute une couche de concret, de sensible, en fait.
Justement, c'est le gros sujet, quoi. Mmh. Qu'est-ce que ça apporte vraiment le son, ça, nous, par exemple, dernièrement, on a fait un atelier et une formation. Sur Wise, justement, payant, les gens sont venus et ils ont appris avec Dorothée qui a fait le son de les jeux de voiture là.
Trackmania.
Trackmania, voilà. Et ils ont grave kiffé et on n'a pas eu autant de monde qu'on le voulait. Mm-hmm. Tu vois. Et en fait, on a eu beaucoup de retours de gens qui disent je suis sur mon jeu, le son, je verrai après. Je me formerai après, je verrai, je fais d'abord mon jeu. Est-ce que c'est une bonne approche du créateur de jeux vidéo? Faut l'éduquer, lui faire comprendre que la musique, faut y penser dès le début, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, ou il a raison, on voit ça après. Toi, ton avis, c'est quoi?
Le
créateur de jeu.
Moi, je pense que c'est un peu du cas par cas. Je pense que de manière générale, de toute façon, le sound design, c'est de la post-production. C'est-à-dire que on bosse à l'image, on bosse sur des choses qui existent déjà, on bosse sur du concret. Maintenant, je pense que par exemple, sur un jeu qui se veut avoir une volonté sonore beaucoup plus forte et beaucoup plus. Avec une approche beaucoup plus proche, je pense qu'il faut effectivement avoir une. Il faut y penser avant, il faut penser en amont parce que ça permet de voir beaucoup plus loin et d'envisager les choses de façon beaucoup plus concrète. Maintenant, dans certains jeux. Souvent les créateurs demandent le sound design à la fin parce que c'est les dernières touches de polish qui restent parce qu'on a déjà le gameplay, on a le graphisme, on a tout qui est mis en place qui fonctionne. Il n'y a plus qu'à rajouter ça pour vraiment créer la sensation que le jeu il est polish, quoi. Il est là, il est croyant.
En étant dans l'indé, est-ce que c'est intéressant dès le début de parler avec l'artiste, le créateur, c'est où ton délire pour qu'on ait une discussion, pour qu'on puisse apporter des choses.
Je pense que c'est dommage quand c'est pas le cas. En fait, comme tu dis, on pourrait se contenter de rajouter une couche de son sur le jeu pour le polish, que ce soit plus joli en quelque sorte. Mais c'est vraiment dommage de s'arrêter là parce que si on s'implique dans le dans la création du jeu dès le début, on peut beaucoup mieux entrelacer en fait les différents aspects, les différents aspects tels que les interactions entre la DA graphique et la DA audio, les interactions entre le gameplay et l'audio aussi, comment le son, bien sûr, tout simplement pour croiser les influences.
Comment ils font les gros studios, ils font quoi? C'est dès le début, ils pensent au son, t'as travaillé avec des réalisateurs dans le son, c'est dès le début ou c'est pareil, c'est à la fin?
Dans les gros projets, il y a toujours une phase de conception audio, mais enfin... Pour moi, ça devrait être comme ça partout. Hein. Les projets qui marchent vraiment bien dans l'indé, c'est des projets pour lesquels il y a une vision qui est globale, qui inclut l'audio dès le début. Hein.
T'as vu ça, toi?
Ouais. J'ai eu des projets. En fait, j'ai eu tout. C'est-à-dire, j'ai eu des projets où vraiment dès le début, on m'a appelé. Là, par exemple, moi, je bosse sur un projet où je suis là dès le début. C'est-à-dire qu'on en est au gameplay, c'est-à-dire qu'on est en plein encore gameplay.
Et ça, vous appréciez ça, d'arriver dès le début?
Oui.
Ah bah c'est génial, c'est le meilleur moment. Ouais.
Ouais.
Bah, tout est possible à ce moment-là, c'est ça qui est top.
Tout est créable et tout est encore modulable.
Donc là, et puis tu fais de la recherche de références, tout comme les concept artistes vont d'abord chercher des photos, faire des moodboards, chercher des ambiances, des choses comme ça. On peut faire pareil avec la musique et aussi avec le son.
C'est ça.
Hors musique, vous appréciez plus cette attitude dès le début, voilà.
C'est ça.
Vous arrivez, vous allez pouvoir imposer plus votre vision, aider que ça colle beaucoup plus à ce qui va être créé.
C'est ça, puis là, ça permet de mieux se rendre compte au cours des échanges, de vraiment avoir la vision du game designer, des graphistes, du programmeur, et voir, ok, alors, toi tu vois ça, ok, moi je vois ça, sur quoi on se relie, on est déjà d'accord, ça on est d'accord, et après commencer à clarifier, vraiment avoir une vision commune qui va venir se rejoindre et éviter d'avoir des cas où, en fait, il a une vision, et en fait, en avançant, ils sont assis sur leur vision, et au final, c'est une sorte de projet un peu pas encore défini, parce que en fait, ils en ont pas discuté, ils s'en sont pas rendu compte à tel moment, et ça peut...
Mais artistiquement, ça donne des meilleures choses.
C'est ça, parce que la vision est plus commune et plus rapidement mise au commun.
Plus cohérente.
C'est ça.
Ouais. Ça, c'est ce que vous recherchez.
Idéalement, ouais.
C'est mieux d'arriver à la fin. Vous considérez comme des artistes aussi? Là, c'est plus comme un artiste.
C'est peut-être prétentieux, mais.
Vous considérez pas comme des artistes?
J'aimerais bien, ouais. ça dépend des projets. Moi, j'ai pas toujours eu un impact artistique sur le projet.
Ouais. Mais oui, ça, c'est ton travail. C'est-à-dire, à un moment, on te demande un travail, faut faire ça, et t'es payé pour ça. Mais toi, intérieurement, en tant que personne, tu te sens artiste ou pas?
Si je suis tout seul sur le projet, ou si on est très peu et que du coup j'ai les coups des franges pour y mettre du mien, oui, dans un sens, oui. Ouais. Je pense que ça revient à être de l'art, ouais.
Je pense qu'en fait, le côté artistique, on le ressent beaucoup plus quand on est dans des équipes toutes petites. Parce que comme il y a, par exemple, dans des cas où il y a 20 sound designers, forcément, comme il y a 20 personnes qui se côtoient
c'est
et qui
juste
font...
Ça.
Bien sûr, ouais. Ouais, sur Watch Dogs 2, au total, je crois qu'il y avait 20-25 personnes dans le monde entier.
Donc ça peut faire un peu moins personnel, parce que forcément, t'as 20 personnes qui font 20 travails pour la même chose, et du coup, tu perds un peu de ce truc-là que t'as dans les indés, où on est 3, et on fait ça avec des bouts de ficelle, et puis...
Mais je pense que même dans ce cas-là, si tu veux vraiment pousser le truc jusqu'au bout, je pense qu'il y a des mecs qui sont des vrais artistes du son, de l'enjoliveur, de la voiture, tu vois. À partir du moment où tu mets du cœur, en fait.
C'est
même si t'as bossé sur un tout petit truc, si tu l'as fait tel que tu voulais l'entendre, et tu tenais à une vision particulière, et que t'as réussi à la.
Dans cette direction, vous avez une. Est-ce que vous avez une spécialité, ou est-ce que vous êtes plus généraliste, ou il y a un truc que vous kiffez, ou vous penchez à être le meilleur dans un truc, parce que maintenant il y a plein de trucs dans le sound design. Toi par exemple, est-ce qu'il y a un truc dans tout ce que tu fais où t'es le meilleur, où t'as envie d'être le meilleur?
Alors je sais pas si j'ai envie d'être le meilleur, mais j'aime beaucoup travailler sur les ambiances. Ouais.
Les ambiances.
Ouais.
Ah ouais.
Donc tout ce qui est en fait. Décoratif en fait, en quelque sorte. C'est pas qu'une question de décoratif. Je pense que c'est utile pour poser une ambiance. Ça peut être, ça peut suggérer un truc flippant, ou au contraire quelque chose d'apaisant. Ou tu vois,
t'envoies des petits
oiseaux,
en fait.
Ou alors des vieilles nappes abstraites cheloues.
T'envoies un message au joueur en fait. Tu dis ok, ce que tu dois ressentir, c'est ça. La vision que tu dois voir, c'est ça en fait. Ce que tu dois entendre, c'est ça. Et c'est.
Ah ouais, ça doit être kiffant, ça.
Et c'est cool parce que c'est une vraiment une base, peut-être qu'on perçoit de façon un peu plus inconsciente que le reste, même avant la musique. C'est ça aussi qui va remplir les moments de silence, en fait.
Ouais.
Parce qu'on essaye jamais d'avoir de silence, quoi.
Ouais.
À part dans des cas très 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 précis où on en a besoin. Mais
c'est fait que ça.
Mais ouais, ça donne une base, quoi, une espèce de fondation un peu à tout le reste. Et je trouve que c'est cool quand t'arrives à faire ça. Ouais.
C'est tout bête, hein, mais dans The Witcher 3, si tu retires l'ambiance de la forêt et que tu mets l'ambiance de l'autoroute à 5, ça fait pas pareil, quoi. Ça marche vachement moins bien, donc forcément.
Ah ouais, dans l'ambiance qu'ils font. Et toi, Aurélien, c'est quoi ton truc à toi?
Moi, vu que je bosse de façon un peu plus généraliste et que je fais vraiment un peu de tout, moi je dirais que sur l'aspect sound design, j'aime beaucoup créer des sons, mais vraiment sur la partie création d'assets.
Ouais.
Mais par contre, c'est vrai que la phase qui m'amuse le moins en général, c'est l'intégration. Parce que c'est la phase où tu mets en place les sons et tu peux avoir des soucis qui peuvent être très bloquants. Et du coup, ça peut être frustrant. Mais ça dépend de comment tu bosses, ça dépend de plein de choses. Par exemple, moi je fais l'intégration sur un jeu, c'est très. Des fois ça marche super bien, et puis à un moment je peux être bloqué pendant une journée parce que.
C'est le côté frustration en fait qui te dérange.
C'est le côté un peu frustration en mode quand t'es tout seul, si t'es bloqué, t'es bloqué en fait.
t'as une panne d'inspiration ?
Non, mais parce qu'en fait quand tu intègres les sons, des fois t'as des aspects techniques, par exemple sur un moteur où tu connais pas. Genre là t'as un cas très spécifique sur un moteur et tu sais pas comment le résoudre. Et du coup t'es obligé de chercher sur internet, mais comme la documentation elle est pas forcément bien référencée, tu passes des heures à chercher.
Alors, ouais, justement.
Que dans un studio je pense que c'est beaucoup. Enfin, quand t'as un problème tu peux faire excuse-moi, est-ce que t'as déjà eu cette situation, comment on débloque la situation, et voilà quoi. Ouais.
Alors justement, moi comme ancien compositeur, il y a un truc que je faisais, c'est que j'écoutais énormément de musique. Est-ce que ça fait partie de votre vie, est-ce que de votre boulot, est-ce que vous écoutez beaucoup, vous faites vraiment attention aux musiques des jeux auxquels vous jouez? Est-ce qu'il y a vraiment une approche d'analyse, comme un graphiste qui va analyser son graphiste, ou un game designer, ou un level designer, etc. En tant que sound designer, vous êtes des tarés à vous jouer, vous faites plus attention à l'ambiance.
Oui, oui.
Il
n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je parlais justement où j'ai fait un truc par rapport à Horizon Zero Dawn.
Ouais.
Et en fait, j'ai refait le son d'un boss, mais genre sans écouter la version d'origine, et après j'ai comparé avec la version d'origine. Et du coup, j'étais là, mais pourquoi il a fait ça? Je comprends pas. Et par exemple, dans les jeux, on est beaucoup plus attentif parce qu'on dit ok, alors comment il a fait ça, ok, il a mis telle ambiance.
Pourquoi tu cherches à comprendre?
C'est ça. Ou des fois, on reconnaît des bruits de banque de sons.
Oui.
Les bruits de porte, moi j'en ai plein que je reconnais. Je fais celui-là aussi. Je le connais, c'est la French Door Open.
Ah, c'est tous les sons d'effets d'électricité. J'ai l'impression que tout le monde travaille avec depuis, je sais pas, peut-être les années 60, quoi. T'as les mêmes sons de trucs comme ça, quoi. Tu les reconnais.
Et
quoi,
même dans les animés japonais, je reconnais des bruits de porte que j'ai.
Ah ouais.
Oui.
Bah oui, c'est à un moment ils voudraient peut-être tous avec les.
C'est ça.
Il y a des trucs qui sont plus ou moins chiants à enregistrer en fait. Donc, si c'est pas faisable, si t'as pas accès à une bobine Tesla ou je sais pas quoi, un truc qui
a pas
le temps, le budget,
voilà.
Souvent ça va ensemble. tu vas utiliser quelque chose qui existe déjà. Mais il y a un énorme business des banques de sons.
Oui, clairement.
Et heureusement, il y a de plus en plus de variétés.
Ouais,
les banques de sons, ça généralise tout. Dans les gros, ils font leur propre délire. Quand t'as travaillé sur Watch Dogs, ils enregistraient leurs propres sons. Je crois que c'est quoi?
Alors à Paris,
on a enregistré
très peu de choses à Paris. Moi, j'ai enregistré l'ambiance de la cage d'escalier du studio. Mais je crois que c'est tout, en fait. Puis les voix, évidemment, parce que les voix, c'est l'unique pour le jeu. Mais sinon, je crois qu'en termes de bruitage, à Montréal, je sais pas, je pense qu'ils ont peut-être fait un peu plus de recording, mais à Paris, on en a fait très très peu. Ouais.
Et là, comme ça, de tête, est-ce que vous sauriez dire un jeu auquel vous avez joué où vous vous êtes dit « Oh là, le son là, c'est ouf quoi, j'aurais aimé faire ce son, ou il est ouf », est-ce que vous avez eu un kiff comme on regarde un film ou on écoute une musique, est-ce que vous êtes tombé sur un jeu où vous pouvez dire « Là, dans ce jeu, il y a un sound design de dingue ». Vous sauriez dire un titre ou deux là?
Ouais, après pas forcément toujours pour les mêmes raisons, mais
pour les tiennes.
Moi, il y a Dear Esther qui m'a beaucoup frappé là. C'était pour la musique. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le jeu de Chinese Room. C'est un peu vieux maintenant. Ça date de 2011, je pense, peut-être même avant.
Ça commence à être vieux.
Ouais, pour la musique parce que c'était un.
Les compos.
Ouais, les compos. C'est pas de la. Enfin, ça veut rien dire ce que je vais dire, mais c'est pas de la musique de jeu vidéo quoi. Ouais. C'est vraiment de. En fait, il y a une des dirigeantes du studio Fait la musique, c'est Jessica Curry, et à la base, enfin, c'est son métier, quoi. Elle est compositrice et elle a évolué hors du jeu vidéo avant, et c'est intéressant d'apporter quelque chose qui est différent. Après, le jeu lui-même est très atypique, donc.
Mais ça t'a percuté.
Ouais, principalement la musique. En fait, le reste, je me rappelle pas particulièrement du bruitage. J'imagine qu'il devait y avoir du vent, de l'eau, pas mal, parce que ça se passe sur une île.
Ouais.
Mais. La narration était top aussi, mais c'est le talent de l'acteur là qu'il faut mettre en avant, il était top le narrateur.
Et toi Aurélien ?
Alors moi j'ai cherché depuis tout à l'heure parce que je me dis que
t'as pas un jeu là.
Bon, en fait en musique j'en ai, mais oui. du coup je vais en dire un parce que celui-là ça m'a venu direct. Hyper Light Drifter avec le travail de Disaster Piece qui est... Alors j'ai vu l'intro et j'ai totalement bugué, j'ai fait attends comment il a fait ça ? Genre je me suis totalement bloqué juste sur l'intro. Parce que c'est complètement dingue et il y a vraiment un travail de recherche sonore là-dessus, et du coup le sound design aussi qui est très cool de Akash Takar qui est un très bon sound designer, et puis après sinon je vais quand même citer une fierté française, hein, Olivier de Rivière qui a fait la musique de Remember Me et qui a fait aussi la musique de Technomancer il y a pas si longtemps,
et de Vampire aussi
ouais, du coup
ouais. Ouais.
Donc,
alors justement dans l'industrie il y a des noms qui circulent, il y a des références dans... Moi j'en connais dans le game design, dans le design, dans la créativité, dans le sous-design. Il y a des noms références, il y a des noms qu'on dit waouh, ceux-là c'est du lourd.
J'ai des noms complètement déplorables, donc j'aurais du mal, mais ne serait-ce que dans le jeu vidéo japonais, même depuis les années 80-90, hein, il y a des gros noms. Je me rappelle plus de son nom.
Nobuo Uematsu, voilà. Yoko Shimomura.
Que des Asiates
Non, mais parce qu'en fait, ils ont...
C'est Final Fantasy, en l'occurrence.
Ouais, Final Fantasy, ouais. Nobuo Uematsu, il a fait du 1 au 9 et il a bossé sur le 10 aussi. Et maintenant, il fait des jeux mobiles.
Ce mec-là a fait du 1 au 9.
Ouais.
Et ils ont pas changé.
Non.
C'est le même du 1 au 9.
D'ailleurs,
c'était un problème de budget ou...
Non, c'est parce que moi, il est bon.
Il fait ça très bien.
Il fait très bien, donc forcément...
Faire du 1 au 9, c'est qu'il y avait pas mieux.
Et il y a aussi Yoko Shimomura, qui revient souvent, qui est la compositrice des Kingdom Hearts et de FF15 plus récemment.
Ouais.
Qui est très très bon, dans les noms qui reviennent souvent Disaster Piece, parce que il est un peu arrivé comme un ovni et qu'il fait
c'est le mec qui a fait la musique de Fez,
enfin, Fez
à l'origine,
Mini Metro,
pour ça. Ouais.
Hyper Light Drifter
et puis d'autres trucs en dehors du jeu aussi, il a fait la BO d'un film d'épouvante qui s'appelle It Follows, ouais, il y a quelques temps, qui est très 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 cool aussi. Il a un style qui est très très reconnaissable et il arrive quand même à se renouveler,
c'est ça, et il fait des trucs genre Mini Metro, c'est le jeu commence avec du silence et chaque élément qui vient te rajouter dans le gameplay fait du son et ça devient une sorte d'ambiance musicale qui vient se créer par l'interaction des différents sons, et je trouve ça complètement dingue.
J'ai pas encore joué, mais il paraît que
ça, le sound design a dû arriver au début.
Pour moi là c'est vraiment le mélange parfait entre la musique et le sound design, parce que la musique est du sound design et le sound design fait la musique, et je trouve ça dingue à dire et dingue à imaginer comme truc.
Ah ouais, il faut y jouer, c'est aussi une expérience, faut tester, faut y jouer.
Ah oui.
Et le son, je pense que ça apporte tellement de choses dans le jeu vidéo. Là, j'ai une question qui a un rapport avec ça. Je vous la pose, parce que je piche pas la question, mais je vous la pose. Mm-hmm. La musique est-elle toujours la cinquième roue du carrosse dans le jeu vidéo ?
Alors, est-ce que tu parles de musique ou du son en général ?
Alors, lui, il a marqué la musique. Mais ouais, en général, au-delà du sound design, la musique, est-ce que c'est vraiment le petit truc en plus, ou c'est la cinquième roue, ou c'est vraiment... Sans la musique,
ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que les créateurs sont prêts à impliquer les SD et les compositeurs dès le début ou pas? Et c'est dans ces cas-là que, enfin, dans le cas où on n'intervient pas dès le début, oui, ça peut devenir la cinquième roue du carrosse. En tout cas, on peut avoir cette sensation-là. Ouais.
Je pense que son design est plus une cinquième roue du carrosse que la musique, parce que la musique, dans l'imaginaire collectif, c'est beaucoup plus... Dans l'imaginaire collectif, c'est plus important, alors qu'en vrai, c'est kiff-kiff entre la musique et le sound design.
C'est ce que les gens écoutent en premier.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a plein de gens qui, quand ils disent... C'est pour ça que je te posais la question. Il y a plein de gens, quand ils disent la musique, en fait, ils veulent dire la musique plus que le reste. Hein, mais...
Parce que le sound design, c'est pas quelque chose qu'on conceptualise direct, en fait. On se rend pas compte que c'est quelque chose, c'est un métier, c'est quelque chose de cohérent, en fait. Et ça commence à arriver, parce que forcément, les gens se sensibilisent par le fait que des gens le mettent en avant, et du coup, ils comprennent ce que c'est, et voilà. Mais je pense que la musique, elle est un peu moins, surtout que maintenant on commence à avoir des trucs beaucoup plus interactifs, avec la musique interactive notamment qui devient centrale dans l'évolution du jeu depuis on va presque 10 ans maintenant.
Ça peut apporter tellement de choses, la musique.
Ah ça.
Mais je pense qu'il faut arriver dès le début. Faut arriver dès le début. Et justement, on va parler un peu profession. Donc, bah, c'est votre profession.
Ah oui, oui. Oui. Ouais. Bah oui, oui, du coup, oui. 100% bah, depuis 4 ans.
Genre dans la rue, avec vos potes, tu fais quoi toi comme boulot? Je suis sound designer dans le jeu vidéo.
Ouais.
C'est bordel, quoi.
Ah, c'est cool, ouais.
C'est cool, tu vois. Alors, ce métier-là, comment il est? Est-ce que c'est un métier difficile dans le jeu vidéo? On peut pas kiffer 100% ce qu'on fait, mais est-ce que c'est un... Vous trouvez que c'est une bonne place? Est-ce que c'est difficile pour les gens de devenir sound designer? Est-ce qu'il y a beaucoup de sound designers? Tu vois un peu toutes ces questions qu'un jeune peut se poser. Donc là, déjà, la première question, est-ce qu'on peut vivre du sound design dans le jeu vidéo?
Oui, a priori.
Oui, on est là, donc ça.
Vous avez été salarié, freelance, vous avez un peu tout, vous avez été payé pour des jeux. Est-ce que ça a été difficile pour vous de rentrer dans cette profession après votre école? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que ça a été naturel? Comment ça s'est passé pour vous?
Moi, ça a été un peu complexe parce que du coup, je sortais de l'école. Et en gros, j'avais une vague vision parce qu'en gros, l'avantage que j'ai eu, c'est que dans ma promotion, il y avait des gens qui avaient déjà bossé dans le jeu vidéo.
Ouais.
Du coup, j'avais déjà des premiers retours en disant, ouais, souvent c'est le freelance, tout ça. Et du coup, le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est faire pas mal de game jam, machin. Et il m'a fallu, je pense, au moins 6 mois déjà de base pour avoir mon premier vrai contrat payé, quoi. Et après, bah, avec le temps, ça se.
Pourquoi on t'a engagé ton premier contrat? Tu l'as eu grâce à quoi? Grâce à ton savoir-faire? C'est juste un contact, ton diplôme?
Plein de choses. En fait, en gros, mon premier vrai contrat, c'était le jeu qui s'appelle Boiling Ball qui est sorti en décembre. Et en fait, ce qui s'est passé en gros, c'est que j'avais déjà postulé pour eux il y a un an avant de commencer à bosser dessus en tant que sound designer. Et c'est un ami à moi qui a eu le poste. Et du coup, qu'après a fini le sound designer officiel de la boîte. Et en fait, on parlait souvent du projet, parce qu'on nous avait parlé. Et on se disait, ah, ça serait quand même bien, on pourrait faire ça. Et en fait, on a tellement discuté qu'on s'est dit, il faut qu'on bosse ensemble dessus, quoi. Parce que lui, il faisait plus du sound design. Moi, j'avais envie de faire la musique.
Okay,
et du coup, en gros, il a pas mal parlé de moi. J'ai passé des entretiens. Et au final, mon profil correspondait. Ils aimaient bien ce que je faisais. Il me connaissait déjà parce que j'avais fait Izard, parce que le sound designer m'avait recommandé.
Ton diplôme t'a servi?
Oui.
Ouais.
Moi je pense que autant, pas forcément sur la valeur en tant que telle du diplôme, mais plus sur les gens que j'ai rencontrés. Parce que ça m'a beaucoup fait progresser, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, m'a fait rencontrer des gens très très adorables, et du coup je pense que juste pour ça, ça valait le coup.
Ouais. Ok, cool. Mathieu, t'es sorti de l'école, ça a été compliqué pour toi? C'était simple, quoi?
Non, ça a été très très simple parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. En fait, à Lenjmin, il y a en général, je sais pas si ça se fait encore probablement, mais il y a une délégation d'Ubisoft qui vient pour faire passer des entretiens à tout le monde parce qu'ils cherchent des stagiaires en fait tous les ans. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait mon stage de fin d'études là-bas sur le.
Chez Ubisoft?
Ouais, sur le DLC de Watch Dogs 1 qui était développé à Paris. Et puis bah, du coup j'ai enchaîné, pas directement après, mais j'ai enchaîné.
Et t'as pris juste après?
Non, ils m'ont pris 2 mois après pour Watch Dogs 2. Voilà.
Ouais, pareil, ton diplôme t'a servi?
Ah bah oui, carrément. Enfin, bon, en l'occurrence, j'avais mon stage avant d'avoir mon diplôme, le diplôme il le donne en décembre et on part en stage en avril. Donc,
Et quand t'es parti après de Ubisoft et que t'as continué, c'est.
Bah en fait, pour travailler chez Dontnod, c'est parce que en fait le lead audio sur Vampire, je l'avais croisé à Ubisoft 2 ans avant. Donc
le oui, contact, c'est tout.
Enfin, c'était lié.
Le réseau, les gens.
Ouais.
On connaît des gens et ils nous font rentrer dans.
Mais je pense que même, enfin, comme tu disais, en fait, hein, le passage par l'école, de toute façon, c'est.
Tu le recommandes?
C'est indispensable pour rencontrer des gens, se faire la main. J'imagine qu'à Lizard comme à Lenjmin, on fait beaucoup de projets.
Oui, on fait des projets
pratiques. En fait, on sort de l'école de toute façon, même si on n'a pas forcément directement quelque chose, on a un portfolio qui permet de montrer notre travail.
Et vous avez déjà rencontré des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, du sound design, mais sans diplôme?
Ouais, ça marche aussi.
Quoi, c'est des mecs qui sont là depuis un petit moment et.
Souvent, mais pas que. Hein. Enfin, pareil, des gens qui n'ont pas de diplôme, non, mais qui ont peut-être pas de diplôme spécifique jeux vidéo, ça arrive souvent. Oui.
Bah, et qui ont un bagage, qui font du son.
Qui font du son, et puis qui peuvent s'adapter, qui sont prêts à apprendre les outils sur le tas, des fois, ça marche bien,
cool.
Ça se fait.
Alors, moi, j'ai eu un sentiment, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, j'ai plein d'amis en dehors du jeu vidéo, dans le sound design, qui sont attirés par le jeu vidéo. Mmh. Ils veulent y rentrer. Qui viennent du cinéma, de la musique, ils veulent rentrer dans le jeu vidéo pour X raisons, ils pensent que c'est un Eldorado, ils mmh. pensent que, comme dans la musique, pour certains, c'est compliqué, ils pensent que dans le jeu vidéo, c'est mieux pour une expérience. Est-ce que ça existe à l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que les game designers de jeux vidéo, à un moment, ils sont tâtés par « Tiens, j'irai plus dans la musique, dans le cinéma, j'aimerais bien faire des... »
Il y a pas mal de gens qui font du jeu vidéo, qui font un peu du cinéma aussi. Ouais. Mm. Mais sur des projets très très narratifs, ça oui. se rejoint. Hein,
Bah, typiquement, moi je connais quelqu'un qui a fait une bande dessinée,
ouais.
qui est actuellement game designer, et qui voudrait réaliser une sorte de jeu-film. Enfin, ça peut être... En gros, sur des trucs très narratifs... Le jeu vidéo rejoint de plus en plus le film, et je pense que ça peut totalement arriver que des mecs qui font des jeux vidéo assez narratifs aient envie de se lancer dans le film, et on peut voir des sortes de croisements. Moi, je pense notamment par exemple à Hideo Kojima qui a bossé avec Guillermo del Toro, sur, mmh. enfin, qui bosse d'ailleurs actuellement avec Guillermo del Toro sur un jeu, quoi. Donc je pense que...
C'est qui, ça.
Ouais, et je pense qu'il y aura sûrement...
Ça vous intéresse de toucher à autre chose que le jeu vidéo ?
Oui.
Moi, pour moi, l'interactivité, c'est vraiment très important. C'est un truc, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans le ouais, fond pour le oui. jeu. Donc, ça me manquerait, je pense. Mais c'est sûr que quand tu travailles sur un média linéaire, du cinéma ou autre, ou de la musique, t'as une forme de contrôle que ouais, t'as pas dans le jeu, en fait.
C'est ça, je pense qu'il y en a un.
Donc, c'est intéressant.
Je pense que dans le jeu vidéo, t'es beaucoup plus OK, qu'est-ce que le joueur peut faire ? Et dans le cinéma, t'es plus OK, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux montrer au spectateur ? Parce que le truc, c'est que dans le jeu vidéo, le joueur est acteur, il n'est pas spectateur. Et ouais. là où justement c'est mal, t'es spectateur, donc tu montres ce que t'as envie de montrer et tu peux pas avoir de mauvaise surprise en fait.
Et puis tu peux mettre les détails exactement là où tu sais que c'est important ça. À un moment donné, alors que dans le jeu tu sais pas si ça se trouve le joueur il va aller regarder une lampe dans le coin de la pièce et c'est important qu'il y ait peut-être un petit buzz d'ampoule.
C'est ça.
Même si, alors que dans un film, si la caméra elle regarde ailleurs, si elle est loin, tu t'en fiches, tu le sonorises même pas en fait.
L'intérêt.
Dans le jeu t'es obligé d'un peu tout prévoir et. Moi, c'est ça que qui me plaît en fait aussi.
Mais après, moi je dis bosser sur d'autres trucs que jeux vidéo. Mais en vrai, moi principalement je préfère bosser sur le jeu vidéo. Mais j'ai déjà bossé sur des films d'animation ou quoi. Mm. Mais c'est juste parce que des fois ça fait du bien aussi de tester d'autres trucs pour après revenir avec des expériences un peu différentes et des trucs un peu intéressants.
De toute façon, t'es un peu obligé en fait de passer par là même quand tu fais du jeu. Parce que souvent, quand tu cherches du boulot, les boîtes elles demandent à avoir une démo en fait, une bande démo.
Oui.
Et ouais. C'est une bande démo, c'est une vidéo, quelque chose qui est pas interactif. Je trouve un peu absurde d'ailleurs souvent, mais bon, c'est une façon comme une autre de montrer ton travail, quoi. Ça, c'est un peu un passage obligé. Mm. Donc de toute façon, il vaut mieux avoir quelque chose à montrer de oui. linéaire pour montrer ce que tu sais faire. Ouais.
Bah, justement, en restant sur ce sujet, pour faire, il faut écouter, il faut de l'inspi. Mm. Vous allez chercher où cette inspi. Qu'est-ce que vous écoutez ? Est-ce que vous restez pas que dans le jeu vidéo ? Est-ce que vous bougez ? Est-ce que vous êtes fan de musique, un style de musique que vous écoutez à fond ? Est-ce que vous avez chopé des trucs dans les films ? L'inspiration, elle vient d'où quand vous créez pas votre jeu ou que vous devez le créer ? Elle vient d'où son inspiration ?
Moi, personnellement, de base, j'écoutais déjà énormément de musique. Ouais. C'est-à-dire que je dois passer à peu près 8 heures par jour à écouter de la musique.
T'es arrivé, t'avais déjà le casque.
Voilà. Donc dès que je fais autre chose que travailler ou que... De toute façon, je peux écouter de la musique, même en lisant des bouquins, j'écoute de la musique.
T'écoutes quoi comme musique ?
De tout. Parce que... Ouais. Il y a pas longtemps, j'écoutais la BO de Mindhunter, ouais. qui est une série sur Netflix. Et la dernière fois, j'écoutais la BO de Mario Odyssey. J'écoutais aussi des groupes français comme... je crois que c'est Rhône, qui est un artiste français électro que j'aime bien, que j'ai découvert il y a pas longtemps.
D'accord.
Donc...
Moi, ça influence beaucoup ton travail, ce que t'écoutes ?
Oui, dans tous les cas, ce que t'écoutes, ça t'influence. Moi, je sais que quand j'ai joué
choix,
quand j'ai joué à Hyper Light Drifter, je me suis rendu compte que je faisais que des trucs qui ressemblaient à du Hyper Light Drifter pendant une semaine, parce qu'en fait, ça me cédait tellement que forcément, en fait, il y a un moment où tu vas te laisser un peu influencer d'une façon ou d'une autre.
Donc, ton inspi est musique, toi.
Oui.
Et t'écoutes de tout.
Ouais.
C'est super important. Mathieu, comment tu t'inspires, toi ?
Je sais pas, ça se fait tout seul, mais j'imagine d'un peu partout, du coup. Hein, que ce soit. Que ce soit de la musique, mais aussi du film, du jeu, de toute façon.
T'écoutes quoi comme musique, toi ?
Pas mal de choses différentes aussi. Pas mal de hip-hop assez tranquille en ce moment. J'ai eu une période plus électro, un peu plus vénère, genre drum and bass, ce genre de truc.
Ouais.
Sinon pas mal de vieux rock. Du hip-hop tranquille. En ce moment, je suis fan d'un espèce de collectif qui s'appelle Always Proper et qui fait du hip-hop tout lent, avec des petites nappes de piano, des petits samples de rap par-dessus, mais vraiment tout discret, avec des gros effets. Enfin, c'est vraiment tranquillou, hein. C'est un truc à écouter dans le canapé, quoi. C'est super cool. Et sinon, plein d'autres trucs, du vieux rock, du classique, des musiques de films, du reggae,
mais c'est important. Et vous avez le temps d'écouter de la musique?
Bah, ça c'est le gros problème du métier, en fait. Parce que quand tu travailles sur du son, tu peux difficilement avoir de la musique qui tourne derrière, quoi.
Parce que nous on rencontre souvent ce problème avec les game designers, par exemple, qui créent les jeux. Ils créent des jeux, mais ils ont plus de temps à jouer à des jeux. Moi je trouve que c'est une grosse problématique. En tant que sound designer, vous faites du son, est-ce que vous trouvez le temps d'aller écouter du son?
Écouter du son, ça peut être quelque chose d'un peu plus passif aussi, hein. Tu peux mettre de la musique et faire la vaisselle en même temps. Bon, la vaisselle c'est chiant, ça fait du bruit, mais c'est un mauvais exemple.
Non, mais t'as déjà des marches.
C'est tout bête, hein.
Mais voilà, tu peux mettre de la musique pour faire autre chose, quoi. Oui.
Tu peux écouter quand tu te déplaces, et c'est tout bête, hein. Moi la dernière fois j'ai... je raconte ma vie. J'essuyais en fait la buée sur un miroir.
Ouais.
Et en frottant un peu, je me dis, putain, si je fais ça comme ça, ça fait le bruit et on dirait un peu une baleine. Et si je fais ça comme ça, et je commençais à faire du sound design juste en essuyant mon miroir.
Ah ouais,
des fois, je regarde des vidéos de youtubeurs et je me dis, putain, si tu modifies un peu ce son, ça peut faire le bruit d'un monstre.
Oui, il y a des trucs super, t'entends des trucs super dans la vaisselle, hein. La flotte dans une casserole en métal, ça fait des trucs de fou, hein, c'est génial. Enfin...
Des fois, tu fais, mais ça...
Vous devez écouter le monde pas comme nous, alors.
Probablement,
vous devez faire attention à l'ambiance.
Mais pas tout le temps, hein. ça serait compliqué. Hein.
Oui,
je pense qu'on arriverait plus à vivre, en fait.
Je pense qu'on a juste des déclics à des moments, on entend des trucs et on fait, et c'est tout, en fait. Je pense que, en général, on n'écoute pas tout le temps parce que sinon ce serait très fatigant. Mais de temps en temps, on a des petits clics comme ça.
Plus je vous écoute et plus j'ai envie de devenir sound designer. je vais aller faire une école avec un diplôme. Ok, les gars, on va vers la fin. On va parler un peu de la SACEM. Il paraît qu'il y a un gros problème avec la SACEM, vu que ces artistes de hors jeu vidéo, et que le jeu vidéo, c'est tout un autre système. On a vu beaucoup d'articles, on a vu beaucoup de situations où c'est compliqué, la SACEM dans le jeu vidéo. Est-ce que vous avez une approche avec la SACEM? Est-ce que vous êtes à la SACEM? Est-ce que vous maîtrisez sujet?
Je suis pas assez.
Vous n'êtes pas du tout à la SACEM?
Non.
Pourquoi?
Parce que globalement, quand moi j'ai commencé la formation, on m'a dit, ne va pas à la SACEM.
Ah ouais?
En fait, le truc, c'est que, en gros, le problème de la SACEM, c'est que c'est quelque chose qui est quand même assez ancré et assez... tourner vers le cinéma et la télévision, là où le jeu vidéo est quand même un média assez récent.
Ouais.
Et du coup, elle ne s'est pas encore adaptée aux besoins du jeu vidéo. Et le problème, c'est que les budgets et la façon d'utiliser le budget dans un jeu vidéo et dans un film n'est pas le même.
Ouais.
Et du coup...
Ça pourrait le devenir, ceci dit.
Ça pourrait le devenir, mais
En fait, si tu me permets juste de revenir à la jeunesse du problème, tu me corriges si j'ai une connerie, hein, mais le problème surtout, c'est qu'en fait, quand ta musique est répertoriée à la SACEM, pour que quelqu'un ait le droit de l'utiliser, il doit payer des royalties.
C'est ça.
Et les studios de vidéo n'ont pas envie de payer des royalties aux compositeurs. Voilà, c'est tout. Donc, s'ils avaient le budget pour, s'ils avaient la volonté d'allouer du budget pour, ils pourraient tout à fait utiliser la musique de la SACEM.
Ça voudrait dire que tu fais le son d'un watchdog, on prend un gros truc, et t'es à la SACEM, en fonction du nombre de ventes, ils devraient te refiler un pourcentage.
Voilà, et la coutume jusqu'ici, c'est plutôt de vendre ta musique une bonne fois pour toutes, et après, t'as plus les droits dessus, et à l'utiliser dans le jeu, et voilà. Mais j'imagine que c'est aussi une question de simplification, parce que un jeu, ça se distribue pas de la même façon qu'un film ou que de la musique. Il y a des histoires de différentes régions, il y a des histoires de retirage, peut-être d'adaptation, de portage d'une console à une autre, etc. Donc au niveau de la SACEM, je sais pas comment eux, sais même pas s'ils sauraient faire un contrat adapté au jeu vidéo, au final.
Bah ouais, mais peut-être, ouais, effectivement, parce que... c'est marrant, ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que un mec qui est dans la musique, il aurait un autre discours, parce que il se sent vraiment artiste, tu vois, c'est ce genre de question que je vous ai posé, parce que le concept d'un artiste, c'est une personne qui arrive à transformer son esprit en quelque chose de physique. Ça, c'est le concept. Donc, en tant que vous, vous avez une mélodie, vous avez un univers, et avec des outils, vous transformez du sound design, avec des pianos, une musique. Ah, c'est comme ça que tu vois le truc. Et les artistes considèrent ça comme leur œuvre à eux. Mmh. C'est à moi, c'est, ça m'appartient, c'est moi, c'est ma façon de voir les choses, de voir le monde, donc ça m'appartient. Et donc, dans la musique, quand quelqu'un vend mon truc à moi, d'une manière ou d'une autre, c'est normal que ça revient à moi, parce qu'il n'y a que moi au monde qui était capable de faire ce son-là. Ça, c'est vraiment la mentalité artiste. Alors que dans le jeu vidéo, c'est plus une mentalité, c'est limite d'employé. Je t'emploie pour tel temps, pendant un mois, deux mois, tu dois travailler sur mon jeu, t'as ton salaire à la fin du mois, et tout ce qui sort de ton esprit, de ta tête, de ton œuvre, de ta façon de voir les choses, dirigée ou pas, ça m'appartient, t'as eu ton salaire.
Mais après, bah, c'est la problématique de l'auteur, ouais, en général, hein, ça ne concerne pas que la musique, ça concerne le game designer, le scénariste.
Pourquoi je devrais te donner 1€ sur les ventes?
C'est ça. Mais après, je pense que c'est aussi parce que, genre, en France, nous, on a la SACEM. Dans les autres pays, ils n'utilisent pas du tout de la même façon.
La SACEM est enviée dans le monde entier.
Oui, mais...
C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup avec les Américains, parce que les Américains ne fonctionnent pas comme ça. Ouais. Tu fais un truc, ça coûte tant. C'est pour ça que ça coûte un peu plus cher, mais c'est...
Quand tu bosses tranquille avec les droits. Quand tu bosses avec d'autres pays, la première question qui arrive quand tu fais de la musique, c'est: est-ce que tu es inscrit à la SACEM? Et si tu réponds oui, non, on ne va pas bosser avec toi. C'est automatique.
Ils ont juste pas envie de se prendre la tête avec quelqu'un qui va leur demander des sous régulièrement.
C'est ça.
Alors justement, pour finir avec ça, c'est une bonne approche. Il y a plein de gens qui vont se lancer là. Il y a plein de gens qui vont se lancer dans le sound design. Il y a plein de gens qui aiment la musique et qui veulent rentrer dans le jeu vidéo. Vous, enfin, vous êtes professionnel, vous vivez de votre art, la musique. Vous avez un peu de vécu, vous avez fait des choses, vous avez compris des choses. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de conseiller à ceux qui se lancent? Voilà, il y a des jeunes qui vont en avoir de plus en plus. Tu vois, il y a une année en plus, comme tu as dit, de prépa. Oui. Et moi, je suis pour qu'il y en ait de plus en plus, parce que voilà, c'est kiffant le jeu vidéo, et que je le veuille ou pas, il y en aura plus. Qu'est-ce que vous conseillez à tous ces jeunes qui veulent travailler dans le jeu vidéo? Est-ce que, avec tout ce que vous avez vécu, vous avez quelques conseils à donner par rapport aux études, par rapport aux contrats, par rapport à comment il faut voir les choses? Voilà, moi, je veux me lancer dans le sound design. Comment tu peux me conseiller? Conseille-moi un petit peu là, je veux me lancer. Quel conseil tu pourrais me donner?
De pratiquer. Pratiquer, de faire des game jams, j'imagine que c'est la façon la plus facile de se retrouver plongé dedans, de mettre les mains dans les outils et d'essayer faire, d'apprendre faire. Comme ça. Ouais. Ouais. Puis quand tu fais quelque chose, à la fin tu as quelque chose à montrer. Et c'est
avoir quelque chose à montrer.
Ouais.
Ouais. Diplôme, tu le conseilles?
Pas forcément, je pense que le portfolio est probablement plus important.
Ouais.
Mais l'école, c'est une bonne façon de rencontrer des gens, hein, de se faire un réseau et un portfolio au passage.
Ouais.
Donc voilà, ouais, bien sûr, c'est un plus si tu peux te le permettre. Après, c'est pas forcément évident, les écoles privées, elles sont chères. Il y a pire aussi quand tu regardes du côté du commerce, hein, c'est un plus pas forcément nécessaire, je pense, mais...
Ouais. Toi, Aurélien, qu'est-ce que tu me conseilles, là? Je me lance dans le sound design, là. J'ai envie de faire dans ma profession. J'ai envie d'être comme vous, les gars.
Moi, ce que je dis souvent, c'est... Faut se lancer, en fait. Si t'as envie, lance-toi. Tu feras sûrement des erreurs... Comme tout le monde, tu pourras pas faire un parcours parfait sans jamais te tromper. Mais faut essayer, faut se lancer, faut faire des game jams, faut prendre des risques. Et c'est comme ça qu'on fait. On peut créer à partir de rien. On peut se lancer à partir de rien.
Dans les game jams, on demande beaucoup le sound design. Hein.
Oui.
Faut être dans les game jams. Hein.
Ouais, oui. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je sais pas si.
Il y a un sound design dans la salle.
Je sais pas si on est nombreux.
On n'est pas très nombreux à faire des game jams. Ce qui donne des situations où moi j'ai fait le sound design de 6 à 8 projets. Quoi.
Sur une game jam. Ah super. Je reviens, les gars, ils ont fait celui-là.
c'était vraiment ça.
Non, je me suis déjà retrouvé à en faire 2 en 48 heures, mais 6 à 8, t'es un malade.
Je vois pas de quoi tu parles.
c'est le concept des game jams, c'est de faire des trucs extraordinaires aussi. Prends un peu de temps.
Bah, c'est de faire des trucs en tout cas déjà, c'est cool.
C'est ça. C'est le plus important, c'est de faire des trucs. Après.
Donc vous conseillez aussi les game jams.
Ah oui,
carrément. Ah, moi, j'en
vais faire un tour là-bas. Ouais. Ok les gars,
avec modération parce qu'il faut dormir.
Dors quoi?
Dormir. Pour finir, vous, comment t'en vois 2018? C'est quoi pour vous 2018? Comment vous voyez cette année? Là on est au début de l'année. qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous aimeriez, c'est quoi votre actualité, comment vous la... Toi déjà, tu commences par te reposer, tu
m'as dit... Ouais, c'est ça, moi pour l'instant je suis libre de toute ta tâche, donc j'en profite un
c'est
peu.
C'est voulu
En partie.
C'est quoi, t'as pas proposé que,
mais ouais, t'as j'ai besoin de repos, ouais.
Ouais.
Mais j'en profite du coup pour faire un peu de veille, essayer des trucs perso aussi.
Ouais, cool.
En fait, quand tu bosses sur un projet, de toute façon, tu peux pas forcément toujours suivre les évolutions de la technologie, parce qu'au bout d'un moment, bah, t'es quand même bloqué sur un truc, tu vas pas mettre à jour le moteur audio toutes les deux semaines, quoi. Donc là, je me rattrape.
Tu te remets à niveau, tranquille. Ouais. Et après, tu repars sur une recherche d'emploi.
Bah oui, projet. Bien sûr. Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Ok, cool. Toi, Aurélien, c'est quoi 2018 là?
Moi, 2018, là, c'est finir les projets sur lesquels je suis déjà engagé.
Ouais.
Là, je me suis engagé dans des projets, c'est un peu les périodes de crunch en ce moment, donc c'est un peu fatigant, mais ça s'avance plutôt pas mal, c'est assez cool. Pas mal de jeux indés, un peu de jeux un peu milieu de prod, enfin un peu milieu de budget, pas mal de vidéos YouTube.
Partagera ta chaîne.
Pas mal de talk aussi, j'essaie de vulgariser un peu le sujet du sound design pour que les gens soient un peu sensibilisés.
Vous voulez pas devenir prof, les gars?
Bon, moi ça m'intéresserait. Moi je serais
grave. Pas non plus, ouais.
Moi franchement c'est un truc...
Est-ce que vous avez eu des bons profs?
Oui.
Oui.
Ouais. Oui.
Vous serez des bons profs alors. Hein? Bah je vous le souhaite, les gars. Ok, bah Aurélien, je te souhaite tout ça, de finir tes projets.
Merci.
Mathieu, repose-toi et quand tu sens que la...
Tu en démarrer plein aussi.
Voilà, hein. L'inspiration revient, bah tu repars. Les gars, bah merci beaucoup. Franchement c'était inspirant. C'est très intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc les gars, merci beaucoup et puis on se reverra une prochaine. Voilà. Ciao les gars. Merci.
Ciao.
Ciao.